Chapitre 42. Comment l'Hercule Croas et le chien Pipo lièrent connaissance. On a vu que le chevalier de Pardaillan, attiré par le bruit exorbitant qui se faisait dans sa chambre, y était entré à temps pour assister au combat de Croas avec une horloge. Pardaillan demeura d'abord stupéfait. Puis, malgré ses blessures, malgré le péril de la situation, il partit d'un grand éclat de rire, tandis qu'en dehors, les vociférations de la foule augmentaient d'intensité de minute en minute. Croas regarda cet intrus et, reconnaissant le chevalier, prononça « C'est fait ! Ouf, quelle bataille !» Et comme Pardaillan continuait à rire, Croas se mit à rire, d'un rire qui fit trembler les vitres. « Que diable fais-tu là ? » demanda le chevalier à la fin. « Comment ce que je fais là ? Mais nous nous sommes battus, il me semble, à telles enseignes que vous en êtes tout déchirés et tout plein de sang. Ah, monseigneur, avouez que si je n'avais été là, vous succombiez sous le nombre. » Est-ce qu'il serait devenu fou de peur ? Songea Pardaillan. Non, Croas n'était pas fou. Du moins, il ne l'était plus. Il y avait assurément de la folie dans cette imagination qui, surexcitée, exorbitée par la terreur, lui faisait voir des ennemis acharnés contre lui, là où il n'y avait que des meubles. Mais, en présence de Pardaillan, Croas se rassurait. Et, du moment qu'il se rassurait, cette folie spéciale et passagère s'évanouissait. Seulement, Croas demeurait persuadé, de très bonne foi, qu'il avait combattu d'innombrables ennemis dans cette chambre, comme dans la chapelle Saint-Roch, comme sur les pentes de Montmartre. Il ne mentait pas. Il n'était même pas comme ces menteurs qui finissent par croire à la longue à la vérité de leurs mensonges. La bataille avait eu lieu réellement. Tout le mystère était dans cette diablesse d'imagination qui, lorsqu'elle s'affolait, transformait des arbres, des chaises, des bahuts en êtres animés. Seulement, Croas avait ceci de remarquable, que loin de tirer vanité de ses hauts faits, il en était sincèrement désolé. « Depuis que je suis brave, disait-il, chose dont je ne m'étais jamais douté, il m'arrive d'épouvantables aventures. À la fin, j'y laisserai mes os. » Et d'un ton lugubre, il ajoutait « J'étais si tranquille quand je me croyais poltron. » « Tandis que maintenant ?» demanda le chevalier. « Maintenant, je m'effraie, je m'épouvante moi-même. Sans compter le nombre de meurtres que j'ai sur la conscience, moi qui n'aurais pas fait de mal à une mouche. »« Bah, tu voulais pourtant me tuer, il me semble, avec ton ami Pickwick. » »« Oui, monseigneur, et c'est un des grands remords de ma vie. Mais vous avez vu qu'il vous a suffi de me regarder de travers ce soir-là pour me faire tomber à genoux. » »« Oh, oh ! Qu'est cela ? » À ce moment, en effet, des hurlements éclataient dans la rue. Pardaillan s'approcha de la fenêtre et examina ce qui se passait. Il se passait simplement que deux troupes d'archers venaient de prendre position dans la rue et que le peuple les acclamait et en profitait pour acclamer surtout le duc de Guise, bien que celui-ci fût absent. Les cris de « Vive Henri le Saint ! Vive le grand Henri ! Vive le pilier de l'Église !» alternaient avec les cris de « Mort à Hérode ! Mort à Nabucodonosor ! Mort au Parpaillot !» D'ailleurs, les cris de « Vive » et les cris de « Mort », après s'être balancés et heurtés, finissaient par se confondre fraternellement dans une même clameur « La messe ! La messe !» Je me demande un peu pourquoi ces gens veulent aller à la messe, murmura Pardaillan en refermant la fenêtre. « Eh, que n'y vont-ils à la messe ?» Il sortit de la chambre, suivi de près par Croas, qui eût préféré mourir plutôt que de se retrouver seul sur son champ de bataille. Les hurlements du dehors avaient produit leur effet sur Croas. Lorsqu'ils atteignirent la grande salle maintenant déserte, ils tremblaient et grelottaient. « Ah ça !» dit Pardaillan, « aurais-tu faim par hasard ?» La tranquillité parfaite du chevalier, cette question qui ne sentait pas la bataille, réveillèrent le courage de Croas qui répondit « Ma foi, monseigneur, faim et soif. Vous savez ou vous ne savez pas. Après ces terribles assauts, l'appétit se trouve toujours excité. » « Eh bien, dit Pardaillan, nourris-toi et abreuve-toi. passe dans la cuisine où tu trouveras tout ce qu'il faut pour satisfaire un appétit princier, car la cuisine de la Devinière est la première cuisine de Paris et même du monde. » À ce moment, de cette cuisine dont le chevalier faisait un si bel éloge en de si singulières circonstances, apparut l'hôtesse portant un bol et des bandages de linge. Huguette déposa le tout sur une table. Machinalement, Pardaillan alla jusqu'à la porte de la cuisine. Il y jeta un coup d'œil et s'arrêta. Un sourire d'ironie et peut-être d'envie détendit ses lèvres et il murmura. « En voilà deux qui sont heureux. Pourquoi les déranger? Pauvre diable !» Et Pardaillan referma doucement la porte dans la cuisine et poussa un meuble devant, afin que la grande salle étant envahie, lui prit, les gens de Guise ne songeassent pas à pénétrer dans cette cuisine où le maigre et gigantesque Croasse venait de pénétrer et se dirigeait droit sur l'armoire aux provisions. Croasse, en effet, sur l'invitation du chevalier, était entré dans la cuisine déserte et en avait rapidement passé l'inspection. Il ouvrait un placard lorsqu'il entendit tout à coup derrière lui un grognement féroce. En même temps, il sentit une vive douleur à son mollet droit. « L'ennemi ! L'ennemi ! » hurla-t-il d'une voix de stentor qu'on entendit de la rue et qui fit reculer les arquebusiers, persuadés qu'un grand nombre d'assiégés se préparaient à faire une sortie. Croasse aperçut une lardoire, s'en empara et, se retournant, « Ah, misérable ! Même au moment de dîner ! Attendez, vous saurez ce que c'est qu'un brave !» Et Croasse se mit à pousser des vociférations terribles, tout en se démenant et en s'escrimant avec frénésie. Mais cette fois, dans cette nouvelle bataille, il se produisit deux événements qui l'étonnèrent. D'abord, l'ennemi lui avait fait sentir les armes puisqu'il était blessé. Et ensuite, l'ennemi répondait à ses vociférations par des hurlements fous aussi soutenus. Il en résulta un vacarme épouvantable. Dans la rue, les gendarmes apprêtèrent leurs arquebuses et se serrèrent en masse compacte. Dans la cuisine, Croasse, soufflant, suant, les cheveux hérissés, les yeux exorbités, assommait des ennemis invisibles. Les casseroles, les chaudrons tombaient et se heurtaient à grand fracas. Et cependant, l'ennemi, le seul, l'unique ennemi parfaitement visible, Croasse ne le voyait pas. Cet ennemi, c'était un chien. Et ce chien, c'était Pipo. Pipo avait considéré que Croasse, fouillant un placard réservé à toutes sortes de choses succulentes, ne pouvait être qu'un voleur. Or, il n'y a rien d'acharné comme un voleur contre les voleurs. Pipo, qui, dans sa vie, avait commis d'innombrables escroqueries et élevé le vol à l'étalage à la hauteur d'un principe, Pipo ne voulait pas que d'autres volassent. Pendant 10 minutes, l'homme croassant, le chien hurlant, les casseroles mugissant, ce fut donc une affreuse mêlée. Au bout de ces 10 minutes, Croasse s'aperçut qu'il avait un chien dans les jambes. « Tiens, fit-il, en fuyant, ils ont oublié leur chien. » Mais quelle fuite ! Ajouta-t-il en soulevant le rideau de la porte vitrée qui communiquait avec la salle commune. Lâche ! Ils ont tout barricadé ! Allons, tais-toi, le beau chien ! Voici pour toi ! En parlant ainsi, Croasse, magnanime comme tous les vainqueurs, saisit un demi-poulet dans le placard et le jeta à Pipo. Pipo, qui venait de mordre Croasse, Pipo, qui ne voulait pas qu'on volât, s'arrêta net devant ce demi-poulet qui lui tombait du ciel et, une patte levée, considéra le voleur qui continuait à fouiller dans le placard. Pipo hésita quelques secondes, puis, saisissant dans sa gueule le don du magnifique Croasse, il se coucha à ses pieds en remuant son moignon de queue. Croasse cessait d'être un voleur puisqu'il partageait. Croasse, désormais tranquille, tira du fameux placard un pâté d'anguille, un autre poulet qui, celui-là, était intact, plusieurs flacons de vin et s'installa à table tandis que le chien s'installait dessous.